Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table Laurent Moisson. Bonjour Laurent.
Bonjour Raphaël.
Entrepreneur et investisseur, cofondateur des Forces Françaises de l'Industrie. À vos côtés, Jean-Marc Daniel. Jean-Marc, rebonjour. On ne présente plus, éditorialiste BFM Business. Et Ludovic de Sauté. Bonjour Ludovic.
Bonjour Raphaël.
Directeur délégué de la rédaction de La Tribune. Je voulais qu'on commence par un petit mot. L'INSEE vient de publier la dette pour le premier trimestre. Elle grimpe à 3536 milliards d'euros, cette dette. C'est 75 milliards de plus en trois mois seulement. On atteint désormais 117,5 points de PIB, Jean-Marc.
Oui, alors, il n'y a pas de surprise. À partir du moment où l'État est en déficit, forcément, sa dette augmente. Les gens qui disent « j'ai baissé la dette », non, personne n'a réduit la dette tant que le budget n'est pas équilibré. Donc, la dette augmente en point de PIB, elle augmente plus ou moins, mais la dette continue à augmenter.
Là, elle augmente beaucoup, comme les températures.
Alors, ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est quand même 75 milliards en trois mois, alors que le déficit voté, c'est un peu plus de 150 milliards. C'est-à-dire qu'en trois mois, on a fait pratiquement tout le chemin, la moitié du chemin de l'année. Donc, ça, c'est assez inquiétant. Sur le fait qu'on peut s'interroger sur la stratégie, sur l'évolution des rentrées fiscales, ou si ce n'est pas un indicateur d'une détérioration de l'économie qui va faire que le déficit constaté sera largement au-dessus du déficit envisagé. Je rappelle quand même qu'en 92-93, c'était le creusement très rapide du déficit budgétaire au mois de septembre-octobre qui avait alerté quand même les conjoncturistes sur la récession qui s'annonçait en 1993. Alors, par rapport à ça, juste une autre remarque, qui est une remarque un peu à la fois d'actualité et sans actualité, c'est que Alan Greenspan, qui nous a quittés
cette semaine,
le 22 juin, il a dit qu'il y a deux policy mix possibles. Il y a celui qu'il y avait avant que je sois au pouvoir, qui était Volcker-Reagan, c'est-à-dire une politique monétaire très restrictive, avec des conséquences négatives sur la croissance, et donc une politique budgétaire très expansionniste. Donc, on faisait beaucoup de déficits budgétaires avec des taux d'intérêt très élevés. Moi, je me suis mis d'accord avec Clinton pour qu'on fasse des excédents budgétaires avec des taux d'intérêt très bas pour favoriser l'investissement privé. Qu'est-ce qui a bien marché? C'est politique budgétaire restrictive, politique monétaire accommodante. Alors, je pense qu'on devrait réfléchir à cet héritage de Greenspan.
On fait l'inverse aujourd'hui.
Parce qu'on fait exactement l'inverse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait des politiques budgétaires, on n'arrête pas de faire du déficit, et on a des banques centrales qui n'arrêtent pas de nous menacer de augmenter leur taux d'intérêt. Donc, j'aimerais qu'après les hommages rendus à Greenspan, on réfléchisse à l'action de Greenspan.
Oui, c'est ça. Une fois qu'on a fait le bilan, quels moyens on met en place pour essayer de corriger tout ça.
Il avait fait des choses qui n'étaient pas si idiotes que ça.
Ça tombe bien, Ludovic, il y a un comité d'alerte des finances publiques qui doit arriver dans les prochains jours, ça nous fait un bon teasing là.
Ce que dit Jean-Marc, c'est le rythme à lequel on brûle le kérosène là est absolument pas adapté. Donc ça, c'est le premier constat. Et ce qui m'inquiète encore plus, c'est le calendrier, parce que je rappelle là qu'on est en train de parler des chiffres du premier trimestre.
Oui.
C'est-à-dire que l'Iran commence le 28 février, donc il y a juste le mois de mars. On a un deuxième trimestre sur lequel là on va avoir l'effet plein, notamment sur l'énergie et pas mal de choses qui se sont passées. Donc là, c'est
on risque d'exploser les compteurs, quoi, si je comprends bien.
On risque vraiment d'exploser les compteurs sur cette année.
Oui, il faut rappeler à ceux qui nous écoutent qu'il y a une cyclicité dans l'année aussi de la dette, c'est-à-dire qu'elle monte en général très fort sur les six premiers mois de l'année parce que l'agence France Trésor, qui est en charge de la gestion de la dette, émet beaucoup en début d'année pour s'assurer que tout sera bien placé. Et ça diminue en fin d'année normalement.
L'agence France Trésor anticipe une hausse des taux d'intérêt, donc ils se font un peu de la trésorerie.
Accessoirement, avant qu'ils commencent, effectivement.
Plus cher l'endettement.
Oui, parce que comment l'entrepreneur Laurent Moisson voit ces chiffres?
Écoutez, c'est un petit peu, on va parler, je pense, de la canicule.
Oui.
C'est un peu pareil.
On
annonce des choses depuis des années et tout d'un coup, on fait un comité de crise parce que ça arrive. Mais vous écoutez les entrepreneurs. Enfin, moi, j'ai cru comprendre que la richesse était créée par les entreprises. Ils vous disent que ça va pas, que en fait, leur activité est en contraction, parce que quand vous regardez qu'est-ce qui fait la croissance ou la décroissance d'ailleurs, puisque on est probablement autour de ça, d'un pays, c'est la production des entreprises, et après qui peut être compensée ou pas par les dépenses de l'État. Donc, quand vous regardez ce qui se passe depuis des années, c'est que les entreprises n'y arrivent plus, sont probablement d'ailleurs en décroissance depuis à peu près deux ans, en récession, le système économique privé est en récession depuis deux ans, et on compense ça par des dépenses publiques qui explosent tout. Donc, si vous voulez afficher une santé économique pas trop dégradée et que vous ne faites rien pour que le moral des patrons fasse qu'ils investissent plus, qu'ils embauchent plus et que les consommateurs consomment plus, et ben à la fin, vous faites de la planche à billets, vous dépensez beaucoup d'argent et vous êtes repris par ce système qu'on est en train de décrire.
Et ben voilà, ce que disait Jean-Marc, un peu de rigueur ne ferait pas de mal. J'ai oublié de présenter votre dernier ouvrage, Laurent Moisson, La France s'en va en guerre. En oubliant ses munitions, c'est publié aux éditions Déviation, les Déviations, contes et légendes de la réindustrialisation. Vous pourrez l'acheter, c'est passionnant. Canicule, on en parle évidemment depuis quelques jours. On espère que ça va se terminer dans les prochaines heures. La question cette semaine, c'est quand même... On a vu le degré d'impréparation de l'État à tous les niveaux. C'est-à-dire que ça fait quand même 20 ans, plus de 20 ans, souvenez-vous de Jacques Chirac, en 2002, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. C'était au sommet de la Terre de Rio, il y a 24 ans maintenant, quasiment un quart de siècle. 2003, 15 000 morts de la canicule. 2026, on voit les morts se multiplier, on voit que les écoles surchauffent, les hôpitaux, les EHPAD. Qu'est-ce qui explique qu'avec une telle production de textes pour réduire les émissions carbone, les lois climat, les hauts conseils climat, les trajectoires, etc., on en soit encore aujourd'hui réduit à un constat d'échec total et à faire des réunions? Alors Matignon multiplie les réunions. Bon, Ludovic.
La question est extrêmement profonde parce qu'elle est multiparamètre. Évidemment, il y a une lecture politique, il y a une lecture économique. On ne va pas se mentir, d'abord, c'est la facture de cette transition.
On va l'attendre, mais ça va coûter cher.
Voilà, donc c'est... aujourd'hui, on parle d'une facture de l'ordre de 19 à 20 milliards d'euros par an pour que ce pays rentre dans une logique de transition. C'est-à-dire la transition étant de s'adapter finalement à un réchauffement qui est enclenché. Je pense qu'il y a un autre point commun, on en débat souvent aux experts, c'est l'échec dans ce pays de la planification, qui est extrêmement profond. Et là-dessus, à nouveau, on croise malheureusement de multiples problèmes. Après, il y a aussi, et peut-être en profondeur, et c'est peut-être le point, et c'est pas juste un clin d'œil, il y a un échec presque intellectuel qui prend quasiment tous les partis politiques, on va dire, depuis deux ou trois décennies. Je vais faire un parallèle avec la sécurité routière. C'est-à-dire qu'on s'est concentré sur le fait de mettre des radars et des dodanes, en gros, pour donner le coup de frein, mais on n'a jamais installé les glissières pour si jamais, quand même, la vitesse reste excessive. Maintenant, on se pose la question d'installer les glissières, c'est-à-dire que c'est un enjeu profond, le coût économique est phénoménal, rien que sur la deuxième partie des années 2010, en France, le coût des canicules, qui n'était pas au même rythme auquel on est en ce moment, il est chiffré à 37 milliards
d'euros. Ah oui. 37. Une étude d'Allianz Trade qui est sortie cette semaine, qui chiffre à 240 milliards potentiellement d'ici quelques années le coût de la crise. Laurent Moisson, le grand sujet, c'est l'adaptation. C'est-à-dire qu'on a fait de la prévention, on a essayé de limiter le réchauffement climatique, mais à aucun moment on s'est dit qu'il fallait peut-être mettre des clims dans ce pays.
Non, la France, fille aînée de l'Église et de la morale. C'est-à-dire que on a fait des manifs, on a écrit des textes avec des petites normes tatillonnes pour ennuyer au maximum les gens qui produisent. On a très bien réussi un élément de planification, c'est la désindustrialisation. Ça a été fait de façon très efficace. On a dit, écoutez, l'industrie, ça pollue, réglons le problème. Et en fait, on les a tellement ennuyés qu'ils sont partis polluer ailleurs. Maintenant, ils polluent plus à l'extérieur. Enfin, maintenant, c'est des pays qui sont absolument plus sous notre juridiction, qui sont aujourd'hui les gros pollueurs de ce monde. Donc, on peut faire toutes les marches du climat, on peut faire toutes les manifs, on peut bloquer nos...
On a perdu les manettes.
Mais voilà, donc on est maintenant dans un pays qui ne compte plus beaucoup sur plein de choses, mais notamment sur les émissions. On est plutôt vertueux, d'ailleurs, quand vous regardez, grâce notamment à notre parc nucléaire. J'allais dire que les mêmes personnes qui aujourd'hui en ont fait... un fonds de commerce politique de ces canicules étaient les premiers à expliquer qu'il fallait fermer les centrales nucléaires. Bon, donc on voit bien que là, on a un sujet et on commence à percevoir la différence qu'il y a entre l'écologie et l'écologie politique, c'est pas pareil. Et quand on prend un sujet et qu'on le politise, le sujet n'est pas de régler ce sujet, c'est de montrer qu'on gesticule de façon à avoir des votes et une clientèle qui peut dire au moins eux, ils font quelque chose. Donc le jour où on a compris que la gesticulation et les postures, c'est pas ça qui règle les problèmes, eh ben on fera comme tous les autres pays du monde. On a une filiale de nos clubs qui est en Espagne et qui est au Portugal. J'avais hier mon associé qui s'occupe de ça, donc il fait des réunions d'entrepreneurs comme nous, on organise régulièrement, et qui me dit. Mais alors, pourquoi tout le monde est en télétravail? Je lui dis, parce que les transports, c'est compliqué. Les machins. Il dit, mais pourquoi? Je lui dis, parce qu'il fait chaud. Il a éclaté de rire. Et il dit, écoute, moi...
C'est terrible.
De temps en temps, je descends à Séville. C'est quoi? Nous, on allume la clim.
Tout est climatisé, quoi.
C'est un truc de dingue.
Tout simplement. Ouais. Jean-Marc, c'est quoi? C'est un manque de moyens ou...
Non, je pense d'abord, il faut problème... on est quand même dans une situation qui, sur le plan intellectuel, est assez exceptionnelle. Et la question qui se pose, c'est comment répondre à l'exceptionnalité. Je rappelle qu'en ce moment, cette semaine, il fait plus chaud que dans 2% de la planète qu'en France. C'est-à-dire que des endroits où normalement il fait plus chaud qu'en France, structurellement, oui. En ce moment, il fait moins chaud. Ça va depuis Phoenix, Arizona, jusqu'à Bagdad, qui sont les endroits où normalement, à cette période-ci de l'année, il fait plus chaud, et il fait plus chaud qu'en France. Vous savez, la Banque mondiale prend comme indicateur 100 degrés, et donc ils ont une carte des 100
Fahrenheit.
Degrés, donc c'est 100 degrés Fahrenheit. Et donc les 100 degrés Fahrenheit, alors, en l'occurrence, en ce moment, alors... structurellement, on les voit apparaître en France essentiellement désormais dans la vallée de la Garonne et dans la vallée du Rhône, alors qu'avant, c'était uniquement la ville de Nîmes qui était concentrée sur...
On touche les 100 degrés Fahrenheit, ça y est, quoi.
Et donc, il y a effectivement le côté exceptionnel, parce qu'il fait plus chaud à Bordeaux ou à Nantes qu'à Nîmes. Donc, c'est une situation qui, sur le plan météorologique, est quand même assez exceptionnelle. Mais après, il y a les 100 degrés structurels, la vallée de la Garonne. Et donc, effectivement, vous avez trois possibilités. Soit, on a parlé de la France, fille mère de l'Église.
Oui.
Vous pouvez faire une procession. Vous pouvez, ça s'est fait à une certaine époque. Voilà.
C'est un peu ce qui se fait dans les réunions de crise interministérielles. Oui, voilà. C'est une procession gouvernementale.
On peut rappeler qu'Agamemnon a sacrifié sa fille pour avoir le qui lui permettait d'aller à Troyes. Donc, on pourrait faire quelques sacrifices. Bon, je n'appelle pas au sacrifice des enfants d'Emmanuel Macron, mais donc...
les enfants de Jupiter.
Il n'en a pas, d'ailleurs. Mais donc, bref. Je veux dire, on pourrait avoir une dimension qui... La deuxième interprétation, la deuxième action, c'est de raisonner en se disant, indépendamment de l'événement conjoncturel, est-ce qu'on a fait des choses sur le plan structurel, mais pas uniquement en termes de réponse à la canicule, en termes de réponse au réchauffement climatique.
Oui.
Ça, ce que proposent les économistes, c'est la taxe carbone. Je rappelle quand même que après les affaires des Gilets jaunes, on avait demandé au Centre d'analyse économique, au Conseil d'analyse économique, un rapport sur la taxe carbone. Et donc, et ça s'appelait d'ailleurs une taxe juste et pas juste une taxe,
oui.
Le rapport. Et ce qu'il recommandait, c'était effectivement d'augmenter le prix de l'essence et d'afficher clairement que les recettes ainsi dégagées serviraient à améliorer la réponse aux pertes en termes d'isolation thermique, aussi bien au moment où il fait très froid, qu'en couverture, effectivement, de la climatisation et de la lutte contre les chaleurs excessives. Bon. Il est absolument impossible dans ce pays d'augmenter le prix de l'essence. Non seulement on l'augmente pas, mais on fait en sorte...
Ah bah là, on l'a vu, hein, le signal prêt était assez fort avec la crise au Moyen-Orient.
La bonne réponse, c'est de dire, écoutez, ce devrait faire l'État, c'est de porter, moi je n'arrête pas de le dire, le prix de l'essence à 4 euros. Enfin, la troisième réflexion que je ferai, c'est, vous parliez de 2003, moi ce qui m'avait fait peur en 2003, c'est qu'on avait été obligé de mettre dans les réfrigérateurs de Rungis des cadavres parce que les familles ne venaient pas le chercher.
Oui.
Pour ne pas interrompre leurs vacances.
Oui.
Je pense qu'il y a quand même un moment où il n'y a pas que l'État qui est en jeu. Il y a aussi
la population. Aussi.
La population. Quand la population effectivement dit je ne vais pas interrompre mes vacances pour aller chercher le vieux qu'on va le mettre à Rungis, il y a quand même un problème qui est un problème, on a parlé de morale, il y a un problème effectivement d'éducation, de rapport à l'autre qui commence à devenir, à mon avis, indépendamment de l'économie, sur le plan strictement éthique, relativement inquiétant.
Bon, je viens de vérifier la météo, il fait plus chaud à Bordeaux qu'à Bagdad.
Oui, exactement.
Voilà. Non, mais il faut se rendre compte de là où on est.
C'est,
hein.
C'est
il fait plus chaud aujourd'hui à Bordeaux et à Paris qu'à Bagdad.
À cette période-ci de l'année, c'est l'inverse.
Il fait 39 degrés. Laurent Moisson.
Oui. Réaction. Non, mais si vous voulez, on est censé protéger nos jeunes et nos vieux.
Ben oui.
Voilà. Bon, nos jeunes, ils sont dans des écoles qui sont pas climatisées. Hein. Moi, j'ai 4 enfants. Je peux vous dire que plus ça va et moins ils vont à l'école. Hein. Il y a toujours un truc qui va pas. Il neige un centimètre de neige, les bus scolaires passent plus. Et là, il fait chaud, on n'y va pas. Bon,
le deuxième. Les parents partagent la même expérience.
Exactement.
Je pense.
Et le deuxième sujet, c'est évidemment nos anciens, ils vont souvent dans des hôpitaux. Et en fait, il se passe que j'étais dans la salle d'attente avant de passer dans votre merveilleuse émission et j'entendais qu'il y avait des morts à l'hôpital, c'est-à-dire qu'à l'endroit où on va se faire soigner, on en meurt. Donc ça, c'est un problème. Et il y avait même un urgentiste qui disait que vous commencez à avoir des cas de fugue, c'est-à-dire que des personnes âgées qui ont tellement chaud, ils s'en vont. Voilà. Elles s'en vont. Elles retournent chez elles alors qu'il était question qu'on les opère. Donc, alors on peut dire, ok, on n'a pas vu venir, il y a des hôpitaux depuis longtemps, ils ne sont pas climatisés. J'ai regardé, alors je suis tombé sur des études qui disent, avec, j'allais dire, une échelle assez large, mais qui vont, ça coûterait en gros entre 10 milliards et 25 milliards, si j'ai bien compris, de climatiser les hôpitaux en France. Bon, quand on parle de priorité, combien coûte l'arrêt, la suspension de la réforme des retraites et le nouveau congé parental? Vous prenez ça, en quelques années, finalement, on règle le problème. Donc sans forcément mettre des taxes en plus. C'est un choix de société. Comme aujourd'hui, on met tout sur les retraites, c'est-à-dire que le rêve absolu, et on n'a plus que ça comme objectif, j'ai l'impression, c'est de travailler, de partir le plus tôt possible en retraite, et c'est de l'argent qui manque pour faire ça. Autre élément que j'ai vu à votre antenne, les TER ne vont plus fonctionner, notamment effectivement du côté de
Absolument.
Bordeaux. Bon, ça veut dire que les gens ils disent « on va reprendre l'avion ». Voilà, donc ça veut dire qu'on a tout fait pour éviter d'avoir trop d'émissions de carbone avec des lignes, machin truc. On les a pas, on n'a pas adapté les choses, et voilà où on en est. Et dernier point qui est quand même stupéfiant, j'ai parlé du problème de la climatisation dans les hôpitaux. Alors on peut se dire au Val-de-Grâce, le truc a été construit il y a quelques années quand même, peut-être que, bon. Là, il y a le CHU, je crois, de Nantes, qui vient d'être livré ou qui est en cours de livraison. Ils n'ont pas prévu pour que ça soit climatisé. Ben vous voyez, on est quand même, je veux dire,
c'est stupéfiant.
On est quand même stupéfiant. Au courant qu'il y a un problème climatique.
Bah oui. Donc, depuis quelques décennies.
Eh bien, ceux qui font ça n'ont pas prévu. C'est un peu comme la gare de Nantes, qui est une sorte de blocos vitré, qui est magnifique. Hein, en hiver, c'est formidable. Et aujourd'hui, les gens ne peuvent plus prendre le train. Il fait trop chaud.
Sur le fond, sur la canicule, pour rebondir sur ce que disait Jean-Marc, pour un peu, un peu se mettre sur une autre lecture. Moi, ce qui me marque, vu de France, une partie de l'Europe, mais c'est...
Septième puissance économique mondiale, quand la France. Hein. Nos seniors fuient l'hôpital.
Parce
qu'on y meurt de chaud.
On va prendre l'intelligence artificielle, on va prendre la voiture autonome, on va prendre même le retrait des États-Unis, l'OTAN, et tout ça. C'est comment la France rentre mal dans ce siècle. C'est-à-dire qu'on a un problème de logiciel. On s'agrippe sur beaucoup de dossiers comme si on pouvait revenir au monde d'avant. Comme si en étant vertueux, en gérant, les canicules n'existeraient plus. C'est trop tard, c'est enclenché. Je rappelle juste, pour celles et ceux qui nous écoutent, hein, que ce qu'on est en train de vivre, normalement dans une dizaine d'années, c'est 12 à 15 fois par an à Paris, entre les mois de mai et d'octobre. C'est une réalité, c'est enclenché. Donc il y a un moment, en fait, faut se projeter. Ce monde, on le souhaite pas. C'est pas un monde forcément idéal dans tous les points. Mais il faut se projeter. Mais il faut embrasser les choses aussi.
Il faut voir ce que l'on voit, comme dirait Peggy.
Et aujourd'hui, dans beaucoup de dossiers, que ça soit sur l'intelligence artificielle ou sur le fait de gérer des bâtiments, on a quand même une posture en s'accrochant dans un monde d'avant qui n'est pas ce qu'on va avoir à gérer collectivement. Et ça, c'est un vrai problème collectif.
Gabriel Zucman a une réponse à ça.
Oui, juste
Jean-Marc Gagnère,
une réponse par rapport à
rapidement.
Ça. Et au petit débat qu'on vient d'avoir, c'est-à-dire le débat qui consiste à dire finalement les retraités sont trop bien traités. Je rappelle que si on cogne les retraités, on cognera une partie de la population. Donc la question est de savoir, c'est est-ce qu'il faut cogner les gens qui prennent leur voiture et qui sont dans les embouteillages le matin à être un seul par voiture, ou est-ce qu'il faut cogner les vieux?
Mais on alors, cogner est un mot un peu brutal pour dire désindexer peut-être les plus aisés.
Désindexer, ça veut dire appauvrir une partie de la population.
Ça veut dire augmenter moins vite la population, effectivement.
Appauvrir une partie de la population. Hein. Puisqu'à l'heure actuelle, ils sont indexés juste sur l'inflation, donc si on.
Et pas sur la progression du pouvoir d'achat.
Pas sur la progression du pouvoir d'achat.
Mais l'inflation. se trouve, augmente parfois que l'augmentation du pouvoir d'achat ces dernières années.
Le pouvoir d'achat des salariés a plus augmenté que celui des retraités, puisqu'il n'y a pas d'augmentation du pouvoir d'achat des retraités.
Alors, tout dépend donc, sur l'échelle historique.
La question qui se pose, c'est, effectivement, il va falloir faire payer quelqu'un, il va falloir cogner. Et donc, la question qui se pose, c'est, est-ce que c'est les vieux qui doivent payer? Est-ce que c'est les gens qui utilisent leur voiture? Ou est-ce que c'est...
Les milliardaires. Ça, c'est la solution de Gabriel Zucman.
Effectivement, on demande à l'ensemble de la population un effort en travaillant plus. Oh, est-ce que c'est... Bon. Et donc, je pense que le débat est un débat qui doit être... Et on vient de le dire. Il faut dire la vérité aux gens. Il va falloir faire un effort.
Oui.
Cet effort, vous le faites soit en concentrant, en disant, écoutez, c'est les vieux, on s'en fout de tout ça. Il y en a rien à foutre, on a encore de temps devant nous.
Ils votent soit, beaucoup.
Ils votent beaucoup,
les vieux.
Oui, ils agissent. Mais
bon, qui vieillit,
on est très à l'écoute.
Mais on s'en fout, après tout. Ils ne manifestent pas, en tout cas. Il y a assez peu de gens qui cassent des abribus après 70 ans. Donc,
mais je sens la colère monter chez Jean-Marc Daniel.
Où est-ce que c'est, effectivement, les gens, encore une fois, ce que constate Vinci, c'est-à-dire que dans la accès à Paris tous les matins, le nombre de gens qui sont seuls dans la voiture a considérablement augmenté, alors qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut promouvoir le covoiturage et tout ça.
Est-ce que c'est les gens qui travaillent plus, Jean-Marc, hein.
Bon. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'effectivement, le véritable enjeu, c'était ce qui avait été dit au moment des COP successives, c'est que la taxe carbone, normalement, c'est un moyen effectivement de cogner, de faire payer à quelqu'un, mais ça n'a de sens dans le rapport que disait donc le CAE, ça n'a de sens que si clairement on utilise cet argent pour véritablement
le
lutter
flécher.
Contre le réchauffement climatique.
Oui. Il y avait l'ISF.
Et pour terminer sur l'hôpital de Nantes, sur la polémique autour de l'hôpital de Nantes, je rappelle quand même que les architectes ont des obligations dans cet hôpital, et effectivement, il ne sera pas climatisé, mais il est fait avec des matériaux qui, normalement, permettent de réduire considérablement les pertes d'énergie l'hiver et d'augmentation de température l'été. Il ne faut pas considérer non plus que les architectes, que nos dirigeants sont systématiquement abruti dans l'erreur.
Bah,
ça peut arriver.
Il faudrait
ça
qu'on voit. C'est pas totalement aussi... exclure non plus,
c'est
hein, cher Jean-Marc.
Des fois, on a un doute.
On pourrait demander combien il fait à l'intérieur.
C'est incroyable. D'où sortent ces gens? Comment se fait-il que nous ayons une élite de gens constitués d'abrutis, d'incapables? Ils sont même pas corrompus. Ils sont cons. Alors, je dis, non, c'est une vision du monde qui me paraît un peu réductrice.
Il y a une forme de sincérité dans la connerie, vous savez.
Oui, je sais pas dans la corruption. Je sais pas. Mais enfin, il me semble qu'il y a des architectes dans ce pays qui ont un certain
vrai,
talent
c'est
et
vrai,
que dire, écoutez, l'hôpital de Nantes, c'est ni fait ni à faire. Moi, je ne suis pas architecte. Ouais. J'ai vu fonctionner les architectes. Il y en a qui ont du talent et qui sont compétents.
Oui, la gare de Nantes, il fait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur aussi.
Pour
équilibrer un peu. Allez, il nous reste 5 millions, on est super à la bourre. Je voulais qu'on parle quand même. La solution, c'est de taxer en France, en général. Si on a une taxe Zucman, qui va payer, cher Jean-Marc? Les milliardaires, bien sûr, 1800 milliardaires, ça rapporterait 25 milliards d'euros. Oui, alors c'est pas tout à fait ce que dit une étude qui a été commanditée par le mouvement patronal, trop c'est trop. Camarade, d'où parles-tu d'une voix libérale? Disons-le tout de suite. Un rapport co-rédigé par une invitée régulière de cette émission qui est Nathalie Janson et qui nous dit que le chiffre, ça serait pas 25 milliards de recettes, ça serait plutôt 5 milliards et demi. Ludovic,
L'étude,
comment on arrive là? Qui dit vrai là? On est perdu.
Rentrons dans les chiffres et puis après peut-être on parlera du timing qui m'étonne énormément de cette étude, mais bon, ça c'est une autre marque. L'étude, on l'avait déjà croisé au moment du budget, c'est-à-dire la première fièvre Zucman, qui était
à l'automne dernier,
au moment où on était dans cet incroyable débat budgétaire, et on sait que le rendement de la taxe Zucman, 20-25 milliards pour les plus optimistes, eux aujourd'hui disent dans le meilleur des cas 5 milliards déjà en rendement. Ça, on sait que, et ce rendement là aujourd'hui, dans honnêtement toutes les études un peu crédibles, situe entre 5-7-8 milliards, pas plus. Après, il y a deux points dans cette étude, moi, qui m'ont marqué. Le premier, c'est que, évidemment, c'est le contre-coup de cette taxe Zucman. C'est au-delà de sa rentabilité. C'est-à-dire, évidemment, ce qu'elle implique dans l'économie réelle. Et là, il y a des chiffrages qui sont intéressants parce qu'il y a vraiment un prix à payer. En tout cas, les auteurs le posent comme ça. Et puis, il y a un point aussi, on l'avait croisé en septembre-octobre, c'est la fragilité de cette taxe liée à son assiette. C'est-à-dire à quel point elle est concentrée sur quelques personnalités. Je rappelle que c'est une dizaine de familles qui représentent 75% de cette taxe. Donc c'est presque une taxe nominative quand je regarde Jean-Marc en même temps. Et ça, c'est l'extrême fragilité. Après, sur la capacité, là où je quitte davantage cette étude, c'est, on va dire, sur quel effet de bord elle aurait sur les mouvements, l'exil fiscal.
Bah alors, oui, là, vous avez quand même 45% de l'assiette qui dépend de trois familles.
Mais
je suis pas sûr que alors on connaît la concentration de l'impôt en France, mais je suis pas sûr qu'elle ne bouge pas, qu'elle reste dans le viseur du canon fiscal sans bouger.
On est dans ce mouvement-là. Moi, ce qui me surprend davantage, c'est que j'allais dire, c'est le moment de cette prise de parole, parce que je veux dire, la taxe Zucman, c'est un petit peu banalisé.
On lui refait de la pub.
Et en faisant ça, on l'a fait renaître quelque part aussi.
Bon, Laurent Moisson.
Ouais, mais je pense que là, pour le coup, elle serait revenue assez spontanément.
Probablement.
On risque d'en entendre parler à l'automne prochain.
Et donc, je pense que c'est bien que les patrons aient tiré les premiers pour ce coup-ci. Moi, si vous voulez, je reviens, j'ai un petit côté historien, puisque j'ai usé les bancs des universités pendant très longtemps sur l'histoire économique. Il se trouve que quand vous regardez l'Égypte des Ptolémées, quand vous regardez l'Empire romain de Constantin le Grand, quand ils ont augmenté massivement les impôts sur les paysans, c'est-à-dire des gens qui possédaient leurs terres.
Oui.
Les paysans ont abandonné leurs terres et ont changé de région. Donc l'exil fiscal, ce n'est pas que les milliardaires qui devraient, pour des raisons morales, etc. Vous augmentez la fiscalité sur les cigarettes, vous voyez augmenter la contrebande.
Le marché noir, bien sûr.
Donc, je veux dire, je ne comprends pas que là-dessus, les phénomènes classiques de psychologie humaine ne soient pas étudiés par ces gens qui nous font des taux, des assiettes, des machins. Je veux dire, le concept de la grand-mère, quoi. On lui pose une question, on voit comment elle répond, et puis on se dit que vous avez en ce moment un débat qui a eu lieu avec une loi qui a été votée, je crois qu'elle n'est pas encore appliquée, en Californie, qui est quand même un pays progressiste, où tout le monde est champion du monde de la morale et du progressisme. Bon, même chose, c'est-à-dire pour faire payer les milliardaires.
Oui.
Donc à partir de 1 milliard de, je crois, de capital, enfin en tout cas de
fortune personnelle, patrimoine.
Net, voilà. Il y a 200 milliards à peu près qui sont visés, il y en a déjà 9 qui sont partis, c'est les 9 plus gros. Ils sont partis alors qu'on en parlait. Je regardais également une étude qui a été publiée il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est Challenge qui a fait ça, et qui expliquait que l'exil fiscal avait repris. C'est-à-dire que déjà sur les 25 familles les plus fortunées de France, il y en a 9 qui n'habitent plus en France.
Oui.
C'est des gens qui sont très bien conseillés. Je parle même pas de c'est bien, c'est pas bien. Je dis juste sur l'efficacité.
En état de fait, on peut constater froidement les réactions, effectivement.
Vous taxez les yachts, les gens déplacent les yachts.
C'était le cas en Norvège ou en Suède aussi.
Mais Norvège et Suède, c'est pareil. La Norvège.
Ils sont partis.
Exactement. La Suède, je rappelle que le fondateur d'IKEA a vécu l'essentiel de sa vie professionnelle en Suisse. Donc.
Capital est évidemment beaucoup plus mobile que le travail.
Donc pourquoi est-ce que les gens ne s'organiseraient pas pour le faire? Donc ça va forcément rapporter moins. Regardez ce qui s'est passé avec les résidences secondaires à Biarritz. Ils ont augmenté en disant taxe sur les résidences secondaires. Là, on n'est pas en train de parler de milliardaires qui sont des gens étranges, etc. C'est le français un peu plus que moyen qui a une maison secondaire. Il y a quand même un certain nombre de personnes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit taxe, c'est ma résidence principale.
Des externalités.
Et comme ça, vous n'aurez pas mes taxes.
Jean-Marc, un mot très rapide.
Non, que l'excès d'impôt tue l'impôt, on le sait, et puis ce qui se passe en Californie. D'ailleurs, le débat en Californie rebondit sur le débat de 1978, puisque c'est à l'occasion des midterms que ce débat a lieu, et donc sur le fait qu'en 1978, on a supprimé l'impôt en question, qu'on veut rétablir en Californie, et donc un des arguments des gens qui veulent le rétablir, c'est de dire, écoutez, il n'y avait pas d'exil fiscal en Californie avant 78. En fait, ce qui, dans ce débat, vous avez une dimension, qui est une dimension, on a parlé de morale, qui est une dimension éthique, c'est qui doit payer, j'en reviens à ça. Et donc, la seule chose que nous propose dans ce pays, c'est, encore une fois, les vieux, les étrangers, parce qu'il y a aussi c'est l'immigration qui nous coule, et puis les riches. Or, je pense que c'est les étrangers, c'est eux qui font tourner l'économie, toute une partie de l'économie, les riches, c'est eux qui épargnent, et les vieux, après tout, tout le monde finira par être vieux. Donc, cogner sur les vieux, c'est aussi cogner sur soi. Mais je voudrais simplement rajouter deux choses. La première chose, c'est
rapidement,
que dans l'impôt sur le capital, on a parlé de Constantin et tout ça, la situation actuelle n'a rien à voir, parce que Constantin et tous ces gens-là avaient en face d'eux un capital qui existait quoi qu'il arrive. C'est le grand débat des physiocrates. On peut taxer le capital si ce capital existe, quoi qu'il arrive. Et la terre existe.
Parce que c'est le cas de la terre,
Parce que la terre. Or, on est dans une situation où les capitaux qui sont menacés sont des capitaux qui n'existent pas forcément. un appareil industriel, vous le créez, à la différence de la terre de Constantin. Et donc, c'est encore plus grave que ce qu'on vient de dire sur Constantin et sur les Romains. C'est-à-dire que non seulement vous chassez les producteurs, mais vous empêchez même l'appareil productif d'exister. Donc
c'est la double peine.
C'est la double peine. La deuxième chose que je mettrai en avant, c'est on va commémorer les 10 ans de la mort de Michel Rocard.
Oui.
Et Michel Rocard, qui est à l'origine de l'ISF.
Avec et de la CSG.
Et de la CSG, mais sur l'ISF, il avait fait un très beau discours en disant qu'il n'y a rien de pire quand on raisonne sur le plan fiscal que de raisonner en termes de revanche sur les riches. Et que l'ISF ne doit pas être interprété comme étant...
Le problème de la moralité en fiscalité qui fait toujours beaucoup de dégâts et peu de résultats.
C'est avant tout une taxe de revanche sur les riches.
Revenge tax.
Taxe sur les fenêtres. Porter les fenêtres votées par le directoire, ça a lancé la plus grande opération de murage.
Absolument.
Je ne sais pas si on dit murage, ouais. Mais en tout cas, voilà, d'emmurement.
On en voit encore.
De muration,
Paris,
hein. Voilà.
Ouais. On voit des immeubles dans Paris.
Des fenêtres, etc. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a à chaque nouvelle taxe une adaptation des gens qui sont taxés. Évidemment. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Jean-Marc, on vote toujours pour que ça soit les autres. C'est-à-dire que quand on est jeune, on vote pour que ça soit les vieux, les machins. Quand on est français, on vote sur les étrangers. Quand on est vieux, on dit c'est plutôt les autres.